Bon, Marc, tu voulais me parler du marketing des boissons gazeuses parce qu'aujourd'hui, on va faire quelque chose. Tu nous as mis au défi il y a quelques jours, même, je dirais même 2-3 semaines.
Non, c'est vendredi passé.
Ah, c'était vendredi, c'était il y a une semaine.
Exact.
Tu nous as dit qu'on n'était pas capable de faire la différence entre du Coke, du 7-Up puis de l'orangeade croche.
Les yeux bandés.
À boire juste avec nos papilles gustatives,
voilà.
On serait pas capable de faire la... Puis là, je t'ai dit, voyons, tu nous prends-tu pour des imbéciles?
Bon, ben,
moi, je suis certain que je peux réussir ça. Les deux yeux fermés, je pense que j'ai même pas besoin d'y goûter, juste à sentir, je pense que je vais être capable. Mais
on va jouer tout le monde, on va même faire jouer Alex tantôt.
OK, Alex Détenu?
Oui, avec Alex Détenu. Donc, on va être 5.
OK.
OK, puis là, les yeux fermés...
Ouais, lui qui peut pas jouer, lui. On va être 6.
6, ah ouais.
6, ah ouais. Donc. On va être 6.
Ben ouais, j'espère que j'en ai acheté, j'ai juste des petits formats.
OK, parce que maintenant on va vous mettre... toi tu en boiras pas parce que c'est toi qui organise le concours.
Non,
okay,
non mais je veux dire juste bon, je vais vous mettre 3 petits cups identiques qu'on a à côté de la machine à café.
OK.
Je vais verser de l'orangeade, du 7-Up, du Coke. Vous allez fermer les yeux, puis vous allez goûter, puis vous allez me dire lequel est lequel.
OK.
Et je vous assure qu'il y a au moins une personne autour qui va se tromper. Ça c'est à 5h30. Mais quand j'ai préparé ce concours-là, parce que c'est quelque chose que tout le monde dit ça se peut pas, et moi, pour l'y avoir déjà fait, et je me suis trompé, ben effectivement, tu fais comme on n'en revient pas, ça fait que là, on verra. Je voulais te parler aussi que ces tests à l'aveuglette-là, on a tous connu ça dans les fameuses publicités de...
Pepsi.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est Pepsi. Puis moi, j'ai fait le défi Pepsi, que ça s'appelait. Je me souviens, c'était dans un centre d'achat, dans l'allée du centre. Il y avait une table avec une fille, avec des bouteilles cachées. Puis là, il y avait 2 petits cups. Puis là, tu allais là, puis tu te mettais en ligne. Puis là, il te faisait goûter un cup, puis il te faisait goûter l'autre cup. Puis là, tu disais, j'aime mieux le 1 ou le 2. Puis là, il disait, quel que tu penses que c'est Pepsi ou Coke. Moi, j'étais un buveur de Coke. J'étais sûr que ça allait être Coke.
Ah.
Elle monte la bouteille de Pepsi.
Oui.
J'avais ben, maudite merde. J'aurais jamais pensé.
Bon.
Fait que j'aimais mieux le Pepsi. J'ai toujours pensé que c'était le Coke, puis je continue à acheter du Coke. Moi, pas pourquoi.
Ouais, exact. Même si ton goût pur fait comme, ah, j'aime mieux l'autre.
J'aime mieux le Pepsi.
Ben, c'est exactement ce pourquoi je vais te parler de cette histoire-là. Puis ce que je te relate, ça vient du livre Le Point de bascule de Malcolm Gladwell, OK? Et il y a un chapitre, il y en a 2 d'ailleurs dans le livre, qui s'appelle Le pouvoir du contexte. Alors, lui, il raconte que tout ce combat-là, Coke-Pepsi, des années 80, est un des plus grands flops de l'histoire du marketing.
Ah oui?
Ouais. Dans les écoles, les étudiants en marketing actuellement là, sont pas mal au courant de ce que je vais te raconter. Dans les années 80, Pepsi, avec une campagne marketing extrêmement efficace, avec entre autres Michael Jackson comme porte-parole.
Ah oui.
Oui, tu te souviens de ça?
Qu'il avait fait, les cheveux, il avait pas pogné en feu, m'emmené dans un, il y avait eu des problèmes
télé,
techniques,
là, je pense, oui.
Avec les feux d'artifice.
Quand il tournait sa pub TV, là, un show, ouais, ça me dit quelque chose. Ça fait que, pour la première fois de l'histoire, parce que Coke, ça fait très très longtemps, Pepsi avait battu, en termes de vente, de par le marché, Coke. Et là, c'était la panique chez Coke totale parce que qui aurait cru qu'une institution américaine, Coke, tu le sais comme moi, je veux dire, c'est le Père Noël, Coke,
c'est
la Statue de la Liberté.
C'est l'ADN des États-Unis.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les administrateurs, à ce moment-là, ont commencé à penser qu'il était temps de changer la formule du Coke. Ils se sont dit, écoute, là, probablement qu'on a une vieille formule, même si on a l'impression que c'est 4 rendus pour une pièce. Ils croyaient que le problème venait du produit.
Quelle erreur.
Okay.
Ils n'ont pas été conservateurs.
tu pourras te ravir de mon histoire, Eric, effectivement, avec tes allégeances de profil conservateur, pas juste politique. Ça fait que là, ce qui arrive, c'est qu'ils décident de faire, de refondre la formule, puis le goût, donc le sirop, on appelle, du Coke, avec des essais et des erreurs avec plus de 2000 personnes.
Okay, fait que là, ils font un gros focus group, puis là, ils sont convaincus de leur affaire.
Ils sont tellement convaincus que c'est relaté dans l'histoire que devant le conseil d'administration, lorsque puis toute la réunion de l'Assemblée des actionnaires, ils ont décidé de dire la phrase suivante, ils ont dit, on change la formule, on arrive avec un marketing, ça va s'appeler le, tu t'en souviens?
Le nouveau Coke.
Le nouveau Coke, avec j'aime que ton histoire délicate est très fort. Et ils ont dit, en réunion, on ne peut pas se tromper. 2000 études, comprends-tu? 2000 tests à l'aveuglette. La recette, on a des statistiques écrasantes. Les gens préfèrent de loin notre nouveau Coke au Pepsi, etc. Ils sortent le nouveau Coke et Eric, c'est un flop.
Une catastrophe.
Catastrophe.
C'est tellement une catastrophe, Marc. Je vais te raconter une anecdote de quelque chose qui m'est arrivé personnellement. J'étais avec mon père puis ma mère, puis on faisait le tour des dépanneurs puis des épiceries à la recherche de l'ancien Coke parce qu'il en restait encore dans certaines épiceries. Puis, il en restait plus beaucoup.
Non.
Fait que les épiceries nous disaient, non, on n'a plus. Puis là, on est arrivé dans un petit dépanneur de rien. Puis lui, il en restait une coupe de caisse. Puis là, on est parti avec ça. Mais Les gens paniquaient parce qu'on pensait qu'on ne boirait plus jamais de Coke.
Quel était le nom du Coke qui est revenu?
Coca-Cola classique.
Exact. Qui était le même. Le même. Oublie tout ça.
C'est l'ancien Coke.
Pour revenir au même. Maintenant, pourquoi c'est arrivé? Et c'est là que le livre à Malcolm Gladwell est hyper intéressant. Lui, ce qu'il dit, c'est pour ça que le chapitre s'appelle « Le pouvoir du contexte
oui. ».
Lui, ce qu'il dit, c'est qu'eux autres, là, ils ont fait, si tu veux, ils ont inventé leur nouvelle recette quasiment en laboratoire. C'est-à-dire qu'ils prenaient des kidam, monsieur, madame, tout le monde. Pour eux autres, la méthode était parfaite.
Un Coke Frankenstein.
Ça veut dire que... Non, mais t'as raison, c'est intéressant. Ils prenaient un bout de scie, comment vous trouvez ça? Oui, non. Et là, ce qu'il raconte, Gladwell, c'est qu'il dit... Il y a plein d'affaires là-dedans. De un, quand tu goûtes à une gorgée de Coke, ça, c'est scientifiquement prouvé. Quand tu goûtes à une gorgée de n'importe quoi... C'est pas du tout le même goût que quand tu cales la canette au complet.
Ben non, c'est sûr.
Tu comprends? Il y a quelque chose qui se développe au fil de, puis là, à la fin, ça goûte plus le. Bon. Alors, tu comprends bien qu'eux autres, c'était tout le temps à coup de petits copes en papier. Ah oui, puis là, tout le monde. Ça, c'est le un. Deuxièmement, tu penses-tu vraiment, toi, quand tu prends une canette de Coke que t'aimes, ou si Julie, elle aime le 7-Up ou peu importe, que tu t'arrêtes là, à décortiquer puis à dire à une personne avec un sarreau en face de toi, ben, c'est pas du tout le même.
Ben
t'es pas dans cet état d'esprit. T'es sur une terrasse, t'écoutes le hockey, t'es dans un casse-croûte en train de lire le journal. Tu comprends ce que je veux dire?
Tu manges une sandwich au bord de la table.
T'es pas du tout dans une espèce de truc aseptisé avec du monde caché en arrière d'une vitre qui observe tes comportements. T'es l'enfer. Ça, donc, c'est au niveau d'avoir focusé sur le produit en oubliant le contexte. Mais où c'est hyper intéressant aussi, c'est qu'il disait on avait totalement négligé le sentiment d'appartenance américain à un produit qui s'appelait Coca-Cola, qu'on associe à plein d'événements. Et c'est comme si on disait, savez-vous quoi? Tout, et c'est là que ça rejoint tes allégeances conservatrices, c'est qu'il disait, c'est comme si on vous disait, c'est plus bon ça, ce que vous avez trippé. Comprends-tu?
Hey, moi qui a peur du changement.
Ça a été pris de même. Même juste pour du Coke. Et donc, ils ont arrêté totalement la production de ça. Ils sont revenus avec ce que tu te souvenais, effectivement, qui s'appelait dorénavant
Coca-Cola
le Coke classique. C'est assez incroyable, hein?
Quelle erreur, quelle gaffe.
Ouais. Puis non, mais quand tu regardes la méthode, tu dis... Il y a une expression, moi, que j'aime bien utiliser, c'est voler aux instruments. En voulant dire, si t'es tout le temps en train de regarder juste les chiffres, les statistiques, comment tu fais pour savoir exactement c'est quoi qui s'en vient? Il y a tellement d'autres paramètres.
Moi, je pense
paramètres.
Pas qu'ils ont erré sur trouver un nouveau goût. Là où ils ont erré, c'est de retirer le Coke classique. Parce que moi, j'aurais continué à acheter du Coke classique, ça n'a rien changé. Il y avait juste à ajouter un nouveau produit pour remplacer un produit.
Ben,
c'est ça le problème.
Personne n'a crié quand ils ont dit on va faire un Coke diète. Personne n'a crié quand ils ont dit on va faire un
Coke zéro, Coke vert,
non, personne.
Faites-en 25, Coke. Je m'en fous. Moi, je bois le Coke classique.
Mais eux autres, ils ont dit il faut changer la formule.
Mais ils ont voulu nous enlever quelque chose puis nous forcer à changer. Sont-tu malades? C'est comme si d'un matin, McDonald's disait on fait plus de Big Mac, on va juste faire des cheeseburgers. Et tu te dis, il y aurait une révolution.
Ben, en partant tous les changements. Mais des fois, les changements sont nécessaires.
Mais
dans ce cas-là,
on
n'aime
pas le changement.
Oui, non, mais je veux dire, c'est parce que s'il n'y avait rien qui changerait... Si rien changeait, la vie sur Terre serait, ça marche pas, là. Tu comprends? À un moment donné, c'est même l'inverse. Tout est obligé, tout doit changer. À un moment donné, il arrive des incidents, etc. C'est le même dans tout. Dans les médias, c'est encore plus flagrant. Mais dans le cas d'un produit comme ça, on n'aurait pas cru que ces changements-là, qui pourtant avaient été testés, tu comprends? C'est pour ça que devant la réunion des actionnaires, il avait dit, on peut pas se tromper. Et on a fait tellement de tests, ben, c'est ça. Mais dans le fond, le contexte même de vos tests, était pas adéquat.
Il y a Yves-Antoine qui nous écrit, il dit qu'il sait pas si c'est une légende urbaine, mais il a déjà entendu que l'expression President's Choice, c'est ça, c'est les 100 noms, là.
Oui.
Il dit, ils ont choisi ce nom-là à cause d'une dégustation à l'aveuglette où le président de Coca-Cola, il aurait préféré le 100 noms plutôt que le Coke. C'est comme ça qu'ils l'ont appelé le President's
c'est
Choice.
C'est très drôle. C'est le choix du président pour vrai. Ouais, c'est très drôle.
C'est vraiment drôle.
Ouais.
Fait que, mais. Il y a plusieurs leçons là-dedans aussi, c'est que notre goût, quand on achète un produit aussi, on achète du marketing.
Et
c'est
tellement.
Ça c'est.
Penses-tu
c'est
vraiment
pas vrai
que
juste
ceux qui
Coke,
disent.
Là.
Ben non. Ceux qui disent je préfère la Molson X à la Coors Light ou à n'importe quoi.
Ben,
ou
il y a mieux la pub, il y a mieux la couleur du logo.
Mais personne ne
mieux...
va l'avouer. C'est ça qui est hot.
Ben, c'est comme quand on élit un politicien. Penses-tu que le beau Justin, c'est parce que c'est à cause de son quotient intellectuel qui est là? Ben non, c'est parce qu'il y en a qui le trouvent beau, puis pensent que ça ferait un beau genre de plus petite fille, ou je sais pas, là, mais...
Le parfait exemple de l'influence marketing, c'est le droit de vote. Je suis entièrement d'accord avec toi.
C'est sûr.
C'est-à-dire, mais regarde, c'est bon pour toutes. Regarde comme tout le monde est toujours en train de dire, ben... Mettons, ah ben oui, le troisième lien, les gens ont voté pour ça. Ben attends un peu, qui te dit qu'ils ont voté pour ça? C'est qu'on récupère tout en se disant, moi, je pense que, mais dans la vraie vie, tu peux-tu le calculer? C'est peut-être vrai, ça l'est peut-être pas. C'est certain que c'est pas tout le monde qui a voté CAQ qui disait... Peut-être même que tout le monde qui a voté CAQ est pour un troisième lien, mais c'est pas du tout la raison première pour laquelle ils ont voté. Tu comprends?
Ça se peut.
Il y a 1 milliard de couleurs quand tu votes. Moi, j'ai toujours dit que le problème avec le droit de vote, c'est qu'on peut pas le ventiler.
Faudrait que ce soit des référendums sur toutes les questions pour tout.
Non, pas nécessairement. Non, Éric.
Mais un référendum, c'est clair. Au moins, là, tu votes sur un enjeu.
Non, il faudrait qu'on puisse dire, j'ai un droit de vote que je ventile 25%. Je peux le donner les quatre au même parti. Ou je donne 25%, je trouve que le social des libéraux est mieux. Comprends-tu? Là, on est obligé de dire, ben, moi, je trouve qu'eux autres sont dans le champ là-dessus, sont super bons sur l'autre, mais je suis obligé de donner juste un choix. Si on était capable de ventiler le droit de vote, ce serait comme l'équivalent d'une proportionnelle. Quand tu y penses.
T'as raison. Au niveau de la bière, parce que là, tu me parles du marketing au niveau des liqueurs, mais la bière, c'est... on fait jamais de test à l'aveuglette. Mais je serais curieux de savoir, parce qu'on a fait un test à l'aveuglette pour l'eau, puis Dan Pou a relevé le défi, il faut le souligner quand même, c'est exceptionnel. Moi, ça m'impressionne qu'il a été capable de reconnaître sa bouteille Esca des autres bouteilles d'eau.
Ça, j'en reviens pas. Là.
Mais moi non plus. Puis...
C'était-tu parce que les trois étaient dans un verre d'eau, puis l'autre était dans une bouteille Esca?
Non, c'est ça. Moi, je pense que c'est pour ça qu'il m'impressionne l'a trouvé. Je pense que c'est à cause du bouchon.
Non, mais en fait...
T'as-tu un truc sérieux ou tu peux vraiment reconnaître l'eau?
Pas du tout, j'ai pas triché.
Mais Dan, c'est quand même miracle.
Il y avait 5 bouteilles de marques différentes, puis Paul Raphaël, qui m'a fait faire le test, avait mis une feuille de papier 8,5 par 11 collée sur chacune des bouteilles.
Impossible de savoir.
Il fallait que je prenne la bouteille avec mon gant d'hiver, ma paire de gants.
Fait que t'étais insensibilisé. Là.
Impossible, je ne pouvais pas savoir la grosseur de la bouteille. J'ai pris une gorgée des 5, puis j'ai trouvé laquelle était la...
Ce truc-là, tu l'as tout le temps?
Non, c'est la première fois de ma vie que je fais ça.
Ah bah, bon,
je bois juste la SK.
Ouais. En tout cas, si t'étais capable de reproduire ça une deuxième fois, là, je serais plus impressionné.
Mais c'est parce que Marc m'a dit quelque chose. Moi, j'amène d'autres sortes de bouteilles d'eau des fois, puis je veux l'offrir à Dan. Il a jamais voulu prendre une gorgée de mon eau.
Ben voyons.
Non, il veut rien savoir de mon eau.
Hein?
Il dit que mon eau est pas buvable. Mais c'est tout ça pour dire que si lui est capable de différencier de l'eau, ça se pourrait qu'il y ait des gens qui sont capables de différencier une Budweiser d'une Molson.
Ouais, bah oui, je suis sûr. Ça, oui. Oui, oui. Je te dis juste que la raison pour laquelle tout à coup tu tripes sur une bière. D'ailleurs, sais-tu à quel âge tu commences à être un amateur d'une marque de bière? Ça ne veut pas dire que tu ne prendras pas d'autres, mais que c'est comme, ah, moi, c'est ma préférée, c'est elle, c'est au cégep à l'université. Quand tu commences à prendre une marque là, c'est habituellement une marque. Tout le monde qui m'écoute, là.
Non, c'est pas vrai.
Oui,
c'est ça. Non, parce que moi, là, j'allais, écoute, à l'Université de Montréal à l'époque.
Ah non, mais je te dis pas que tu es.
Tout le monde, je te dis, là, on était tout le monde à l'université qu'on buvait de la Black Label. C'était la bière, moi, quand j'étais à l'université.
Moi aussi.
Puis aujourd'hui, je pense que ça existe plus. Ça existe encore, Black Label?
Mais c'est ça que j'allais dire.
Ouais, mais il y a 1% du monde qui boit ça.
Non, mais c'est dans un fond de dépanneur, c'est pas clair. Là. C'est pas comme, mettons, Molson X, ça existe au bout. Puis moi, tu vois, Molson X, dans le temps, je me souviens, avec Black Label, c'était les deux bières. Puis Molson X, encore aujourd'hui, puis la 50, tu vois, ça vient tout de quand j'avais 19-20 ans.
Et nous autres, là, c'était une religion, là.
Mais
si c'était pas de la Black, on buvait pas de la bière.
Te souviens-tu de la campagne pub qui avait relancé ça?
Black Label.
Non, c'était pas ça. C'était fait comme un clip tout dark dans les ruelles de New York, ça jouait au billard, je m'en souviens très bien, je sortais au Vogue.
C'était en noir et black.
Oui.
Puis t'avais comme une petite touche de rouge.
Exact.
Juste une petite ligne de rouge.
Ouais, en noir et black.
Tu te souviens de ça, Dan? Toi aussi, tu buvais de la Black Label?
Ouais, je buvais de la Black au Vogue.
Ben oui, mais tout le monde. Mais on buvait de la Black partout, non?
Ouais.
Quand on avait des parties dans les sous-sols chez les jeunes, c'était de la Black.
Cette campagne-là, ça avait. Puis je connais le gars qui l'a fait.
OK, tu penses que c'est à cause du marketing?
Ah, ben seulement. Ben voyons, quoi d'autre? Je te le dis, ils ont lancé cette campagne-là. Tu t'en souviens? Hey, tu te souviens de combien de campagnes de pub de bière? Tu te souviens de ça? Moi, je m'en souvenais pas avant que tu le dises, en noir et black.
Puis tu sais qu'il y a...
C'est mortel comme c'est efficace, là.
On vient de faire un parallèle entre la bière puis la politique. Puis là, il y a un flash qui vient de m'arriver. Le gars qui était à la tête, je me souviens plus si c'était Labatt ou Molson, il s'appelait Mario Bertrand. C'était le grand boss puis du marketing pour la bière au Québec. Puis il est devenu chef de cabinet de Robert Bourassa. Puis c'est lui qui a fait la campagne, les deux campagnes. Il a fait la bière qui avait fait un gros succès. Puis après ça, il est allé faire l'élection pour faire élire Robert Bourassa.
Bang.
Puis il avait dit, on vend un premier ministre comme on vend une bière.
Pour vrai?
Ouais. C'est spécial. Hein? J'y ai pensé pendant qu'on en parle. Là.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui nous dit que la Black Label, aujourd'hui, ça se vend. Le prix de la bière est cheap. C'est à 6,99 le pack de 6. Ben, écoute, c'est drôle, hein? Je vais essayer. Je pense que je vais en acheter en fin de semaine. Je vais le réessayer. Ça fait tellement longtemps. Je me souviens même plus quoi. Qu'est-ce que ça goûte. Mais il y a des gens qui me disent que ça goûte la même affaire que toutes les autres maudites bières commerciales.
C'est
là.
Ça. C'est souvent ça, effectivement.
Ça va être le fun le vendredi prochain. Mettons de se faire à tous les 17h15, les vendredis, des tests à l'aveugle demain. Mettons faire un test Budweiser Molson.
Puis la Black.
Je vais m'en occuper de ça. Ça va être mon segment.
On va faire ça avec vous autres. Puis on va vous dire.
Des fois, c'est avec God Dog.
On va vous
Valentine
dire un petit
versus...
peu d'avance.
Non.
OK, on va en pause là-dessus.
Le retour.